Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission dans laquelle vous avez la parole. Dernière édition de la semaine, nous sommes vendredi, comme chaque vendredi, c'est bien sûr la libre antenne dans le JDA. C'est vous qui faites le sommaire. Nous parlerons de la campagne électorale au Sénégal et de ce retour de l'ancien président Abdoulaye Wade à Dakar. Nous pourrons évoquer aussi l'accord de paix en Centrafrique ou encore cette intervention de l'armée française au Tchad. Bref, n'hésitez pas à appeler nous. L'antenne d'Africa numéro 1 vous appartient. Je le répète, 01 55 07 58 00 pour participer. C'est le numéro depuis la France et depuis partout ailleurs, composé le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est facebook.com/journaldesauditeurs. Mais avant cela, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, je voulais intervenir sur la situation du Congo-Brazzaville. Je voulais parler plus précisément de ce monsieur, monsieur Sassou, parce que je ne peux pas l'appeler président, c'est un monsieur, parce qu'il est passé par force à ce fauteuil-là. Alors, est-ce que quelque part, ce monsieur-là, sa tête, il y a un souci, je pense. Il est mieux que vraiment qu'on fasse le tout, qu'on essaie de faire une révision de sa tête. Pourquoi je le dis? Il n'a pas honte d'inviter le président, l'autre là, le nouveau président de Kinshasa là, Félix. Mais ce monsieur-là, il n'a pas de tête, franchement. C'est pas lui qui devrait inviter ce monsieur. Le petit lui a montré l'exemple. Le Kabila qui était là-bas, malgré bon les combines qu'ils ont fait avec Kabila pour maintenir le pouvoir, le monsieur, il a compris, il a tourné les choses d'une autre façon. Mais lui, il n'a pas eu honte. Il n'a pas honte.
Oui, bonjour à toutes les Africains et à tous les auditeurs de Radio Africa numéro 1. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Noël. Vraiment, je suis désolé d'entendre à propos de monsieur Étienne Tshisekedi, qui est aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo, et qui a été, en disant comme quoi que c'est vraiment un chrétien, et qu'il a été à l'église faire tous ces cinémas qu'il a fait. C'est vraiment désolant. Nous, tant que Congolais, ou Africains, je veux dire entièrement, on ne peut pas dire que je suis chrétien, et en même temps faire le vol derrière, ou manipuler des choses que la Bible ne nous conseille pas de faire. Alors aujourd'hui, il va aller à l'église, il va faire des cérémonies, des prières avec des pasteurs, alors que dans sa tête, consciemment dans son cœur, il sait que je suis aujourd'hui président de la République, mais j'ai triché. À bon entendeur, salut. Au revoir.
Bonjour Africa numéro 1. J'appelle pour les élections au Sénégal. Alors moi, je voulais juste pour demander, pour le peuple sénégalais, et comment fait-il que Karim Wade, il ne peut pas retourner au pays, et que Mehdi Kenyon, il ne peut pas nous éclaircir, c'est lui qui était avocat, et M. Abdoulaye Wade, il a fait son discours, il ne nous a pas dit aussi comment ça se fait que, il nous a expliqué comment ça se fait que son fils, il est resté coincé à l'étranger, qu'il ne peut pas rentrer au Sénégal. Et Macky Sall aussi, qui ne nous dit rien du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Et jusque-là, le peuple sénégalais, il ne sait pas comment ça se fait que Karim Wade, il est parti à l'étranger, il n'a pas le droit de revenir au Sénégal. Le problème, il est là. Pourquoi on saute les étapes? Il faut que nous, le peuple sénégalais, pardon, il faut que nous éclaircir là-dessus d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Merci beaucoup, Africa numéro 1.
Oui, allô, bonjour à Madame Hickman. Bonjour, Serge GDA. Et je voulais parler à propos de la victime du pull pour les deux pays différents, le Mali et le Burkina Faso. Ce que je veux dire, Serge GDA, le pull, pourquoi le pull est visé par deux pays différents, comme quoi ils sont appliqués de participer côté des terroristes. Ce n'est pas tous les pays qui sont terroristes, mais après l'attaquement par le djihadiste avec leurs alliés Amélé là, 2012, Et Mali a été attaqué. Il n'y avait pas de peuple qui était djihadiste. Il faut être clair. Il n'y avait pas de peuple qui était djihadiste. Mais après, il y a certains moments, il y a 3 ans, et le bandit peuple Amadou Koufa qui s'applique avec le côté de le djihadiste international, y compris le mouvement mauritanien, le djihadiste mauritanien, et Hakimi algérien, et Yad Agali des Touaregs du Mali. Donc, le peuple, ils sont été piégés par tous les peuples, Amadou Koufa.
Bonjour, chers amis. Je voulais vous poser quelques questions, si quelqu'un peut m'éclairer. L'égyptologue Cheikh Anta Diop est-il connu en Égypte? Est-ce que les œuvres de Cheikh Anta Diop sont-ils traduites, enseignées dans les écoles et lycées en Égypte? Si c'est non, cherche-t-on à cacher l'origine négroïde des reines et des pharaons en Égypte, l'origine de la population négroïde des Égyptiens? Ce sont les questions que je me pose parce que ça me préoccupe. Je vous remercie.
Bonjour, chers amis auditeurs, Brice à l'appareil. Juste pour dire à ceux qui invitent les gens des banlieues à ne pas participer à ce mouvement Gilets jaunes, qui est multiforme et multi raison d'être. Je pense que c'est une grosse erreur justement de dire que nous on a galéré, on est des gilets jaunes depuis des années et c'est aujourd'hui que qu'ils comprennent que c'est compliqué, qu'ils se mêlent et qu'ils se plaignent. C'est vrai, mais bon, quand on a je dirais pas un ennemi, mais on dirait un adversaire commun, c'est mieux de se mettre à deux ou à plusieurs pour en venir à bout. Au moins en termes de droits et en termes d'accès à nos revendications, que de dire non, non, laissez-les se débrouiller, parce que finalement, c'est toujours le puissant qui s'en sort dans cette histoire-là. Donc je pense que ceux qui disent que les banlieues en ont rien à faire, c'est pas nos histoires, c'est pas nos problèmes, je pense qu'ils se mettent un peu le doigt dans l'œil, parce que demain, ils se réveilleront, quand ça sera fini ce mouvement-là, dans leurs mêmes problèmes qu'ils avaient avant. Allez, salut!
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. On commence sans plus tarder cette libre antenne. Vous pouvez désormais intervenir en direct en composant le 01 55 07 58 00. Un petit tour du côté du standard. On va parler dans quelques instants de la Côte d'Ivoire, du procès de Laurent Gbagbo à la CPI, de Guillaume Soro. Qui a fait son entrée à l'Assemblée nationale d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, plutôt Abidjan, il y a quelques instants. Mais avant cela, on va écouter William. Bonjour William.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les étudiants africains.
Bonjour William, vous vouliez revenir sur l'élection, non pas d'Étienne, vous êtes nombreux à vous tromper, mais plutôt de Félix Tshisekedi à la présidence de la RDC. Vous dites à Martin Fayoulou, il faut tourner la page, j'ai bien ça.
Oui, Stéphanie, bon, peut-être ça va indigner certains, mais moi, je fais mon analyse. Et je pense que l'heure n'est plus à passer son temps à contacter les gens. Parce que là, Martin Fayoulou a saisi la cour, je crois, africaine pour chercher un peu à revenir à la raison sur son scrutin volé. Nous savons tous qu'il y a eu quelque chose d'un peu de flou, mais après, quand j'ai bien compris, j'ai bien regardé les choses, Stéphanie, qu'on le veuille ou non, quand il y avait les sondages de gauche à droite pour les 3 candidats, Félix Tshisekedi était toujours en tête, et suivi de Martin Fayoulou, et troisième, c'est Chadari. Et quand on regarde aussi bien l'histoire, l'UDPS, c'est le plus grand parti de ce pays, et qu'il y a eu un leader comme Étienne Tshisekedi, le père de fin père de Félix. Et en termes de popularité, je pense que l'UDPS est toujours été en tête. Donc, à un moment donné, il y a des manigances politiques pour que le scrutin soit volé pour celui qui a mérité, oui. Mais j'étais intervenu, j'étais en vacances, c'est Nadir qui était là, que vous avez remplacé comme ça se passe souvent. Et la déclaration de...
Nadir qu'on salue d'ailleurs.
Oui, salut, en passant, merci de me rappeler ça, c'est très important. Et j'avais dit pour la déclaration qu'avait faite l'abbé de l'Ancien-Cholet, qui avait dit qu'il connaissait l'église catholique connaissait le vainqueur, le nom du vainqueur, et c'était une façon de faire pression au pouvoir pour ne pas tripoter, voler le scrutin électoral de Fayoulou, puisque c'était Fayoulou qui avait voulu. Mais j'avais dit, c'était des déclarations graves et des fautes, je peux dire, s'il faut dire politiques, parce que sa déclaration était politique, dans la mesure où il s'était vraiment impliqué, comme si c'était lui le patron de la Céline. Et en même temps, le contraire s'est fait. Le contraire s'est fait. Et on a vu aujourd'hui Félix Tshisekedi prendre la tête de la RDC. Donc Martin Fayoulou, on lui a tendu la main, Stéphanie.
Oui.
Je pense qu'il est temps qu'il se ressaisisse. Parce qu'on le veut ou non, Stéphanie, il ne peut plus rien faire.
Il ne peut plus rien faire.
La machine est lancée. C'est fini. Regardez.
On verra peut-être aux élections intermédiaires. J'imagine que peut-être que la Mouka va présenter des candidats au prochain scrutin. Mais vous dites, hein, William, le moment n'est plus dans le contentieux électoral. Merci, William, d'avoir ouvert cette libre antenne. Merci beaucoup. On continue de parler de cette libre antenne. Comment ça, Lassane, de patienter un petit peu? Je regarde du côté du standard, il y a beaucoup de... On va ouvrir le dossier Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes nombreux à parler de la Côte d'Ivoire avec différents sujets. On commence par Diaby, qui voulait parler de Guillaume Soro, dont la démission a été annoncée par le président Alassane Ouattara il y a quelques semaines. Et l'Assemblée nationale ivoirienne vient d'ouvrir une session extraordinaire. Diaby, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les Africains. Madame, je voulais intervenir sur le cas de Soro Guillaume. Madame, moi je me dis Soro Guillaume, c'est vrai, c'est quelqu'un, c'est un jeune homme que moi je l'ai aimé beaucoup, tout ce qu'il a fait. Sincèrement, je me dis quelque part, Soro Guillaume est en train de déraper parce que avec ses partisans qui sont derrière lui pour l'encourager, pour dire qu'il n'a qu'à se présenter élection présidentielle. Je me dis, c'est très tôt, parce qu'il est encore jeune, il n'a pas d'expérience encore. Aujourd'hui, pour gouverner la Côte d'Ivoire...
Diaby, je vous annonce que Guillaume Soro vient de démissionner de son poste.
Voilà, exactement, merci.
Président de l'Assemblée nationale, c'est officiel.
Merci pour l'information. Madame, moi je me dis, quelque part, pour gouverner aujourd'hui la Côte d'Ivoire, il faut au moins quelqu'un qui a beaucoup de carnets, l'adresse, dans le monde entier pour gouverner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un petit village. Soro Guillaume, c'est un petit étudiant qui était dans Fifi. Aujourd'hui, il est pressé, il veut prendre la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on ne dit pas non. Tout le monde a un rêve. Moi, je me dis quelque part, il faut qu'il se calme. C'est des générations, des bléboudés, au moins sous la... Ils ont leur temps. Parce que, c'est vrai, tout le monde a entendu les vieux comme Alassane, comme Konabédié, comme Babou Laura. Ils ont des expériences pour gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui, quand j'entends les partisans de Soro Guillaume sur les réseaux sociaux en train d'insulter le président de l'Assemblée nationale, moi, c'est vrai, on peut insulter à Alassane Ouattara, je ne dis pas non. Parce que quelque part, Soro, il s'est dit qu'il était trahi vis-à-vis d'Alassane. Donc, je ne dis pas. Parce que, il y a un partisan de Soro Guillaume qui me fait mal. Un Camerounais. Aujourd'hui, qui est au moins porte-parole de Soro Guillaume, qui est là, qui se mène dans. Politique ivoirienne, longueur de journée, en train d'insulter le président de la République. C'est ça, j'ai dit à Soro Guillaume, il faut qu'il fasse très attention. Parce qu'il n'a qu'à appeler ces gens, au moins, de mettre de l'eau dans les vins. Voilà. Il a démissionné, on ne dit pas non. Au moins, qu'il appelle les gens, pour pas qu'il va...
À l'apaisement, Monsieur Diaby. Et on a bien compris aussi, Monsieur Diaby, que vous disiez, finalement, à ceux qui veulent que Guillaume Soro se présente en 2020, vous dites, bon, il était peut-être un peu... Trop jeune, merci Diaby d'avoir contribué à cette libre antenne. Bonne journée à vous. Alors on continue de parler de la Côte d'Ivoire avec Claudel, mais Claudel voulait plutôt revenir sur le cas Laurent Gbagbo. Bonjour Claudel.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour. Alors qu'est-ce que vous vouliez ajouter sur cette liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo qui est bien arrivé en Belgique et qui a demandé à ses partisans de sursoir à toute manifestation?
Tout à fait. Alors, moi, c'est toujours continuer à dénoncer le mutisme total de certains Africains qui regardent les choses faire. C'est-à-dire, nulle part, et ça a été démontré, que quelqu'un qui a été acquitté, libéré, reste encore en prison. C'est une prison pour moi. C'est-à-dire que... Et grands juristes l'ont dit. C'est-à-dire que la CPI ne rend pas justice aux juridictions nationales. Parce que c'est un précédent qu'il crée. Il va y avoir dans certains pays où des gens seront acquittés, on va les garder en prison, ou dit même la grande justice, la grande institution internationale a pu faire ça, et nous, au niveau national, on peut le faire sans problème. Et c'est ça qui est dangereux. C'est vraiment ce que je voulais dénoncer, et que ce soit des journalistes ou des hommes politiques, il faut continuer à dénoncer ça. On ne peut pas garder quelqu'un. Nous sommes en France. Ici, tu es acquitté. Ça veut dire qu'une fois que tu as été jugé, que tu es acquitté, tu dois pouvoir regagner ton domicile. Vous voyez ? Et ça, c'est... Mais personne... Il y a un silence coupable. Vous voyez ? Et je viens d'apprendre encore le problème aussi de Blé Boudé. À qui la CPI court partout pour chercher un endroit où il pourrait résider au cas où... Parce que ce n'est même pas dit que la procureure fera appel. Elle dit très bien que elle veut d'abord recevoir les documents écrits et puis voir si oui ou non elle fait appel. Blé Boudé en Hollande, il ne peut pas sortir. Pourtant, il a été bien acquitté.
Et apparemment, il n'y a pas beaucoup de pays qui veulent l'accueillir. C'est surtout ça.
Oui, mais écoutez, madame, Blé Boudé a bien un pays. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire puisse refuser d'accueillir Blé Boudé. Et vous, les journalistes, je pense que vous avez ce devoir-là de dénoncer ça parce que vous êtes des gens partisans qu'on écoute beaucoup. Et ça, c'est dangereux. C'est très, très dangereux.
Vous avez le seul fait des journalistes, mon cher Claudel, est d'observer et de rencontrer des faits. Voilà, on n'est pas là pour dénoncer quoi que ce soit. Merci, Claudel. Merci d'avoir contribué à cette libre antenne. Alors, il y avait Camara, mais on l'a perdu, qui voulait parler de la visite. Je pense que c'était une visite privée, peut-être, de Nicolas Sarkozy à Abidjan. Alors, beaucoup de rumeurs, de spéculations autour de cette visite. Il semblerait que l'ancien président français se soit rendu à Abidjan en sa qualité je crois qu'il est consultant pour le groupe Accor. Voilà, mais on a perdu Camara. Ah si, Camara est ici. Bonjour Camara.
Allô ? Oui, allô ?
Oui, bonjour Camara.
Bonjour.
Vous voulez revenir sur la visite de Nicolas Sarkozy à Abidjan ? Il vient régulièrement, c'est un habitué de la Côte d'Ivoire, l'ancien président français. En quoi ça vous étonne ?
Ah ben moi, ça m'étonne. Il n'a qu'à acheter en France. Il n'est plus président de la République. Je ne dis pas, il peut venir en Côte d'Ivoire comme touriste. Mais il est embauché comme représentant de, je crois quoi, au Qatar.
Consultant du groupe Accor. Alors non. Après, je sais, l'histoire du Qatar en Côte d'Ivoire, je sais que ça revient souvent.
C'est confirmé, madame. Tout le monde au courant.
Comme ça se peut.
C'est bizarre que vous ne le savez pas. Moi, je vous, quand même,
une grande radio comme
Africa numéro 1. Non, mais en fait, bref, ce que je voulais dire, moi.
Voilà, dites-le.
Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, il y a des cadres en Côte d'Ivoire, il y a des enfants qui sont finis les études, qui sont au chômage. Pourquoi il prend pas ces gens-là, ces petits-là, pour les amener à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar pour travailler? Et on nous prend, comment il s'appelle, Nicolas Sarkozy, pour représenter la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il cherche en Côte d'Ivoire?
C'est pas précisément ambassadeur. Je suis désolé de vous contredire, on en parle souvent. J'ai juste la mémoire qui fait défaut. Mais il n'est pas ambassadeur de Côte d'Ivoire au Qatar, Camara.
Il représente quelque chose.
Ah bah c'est vague. Oui, il peut être consul honoraire. Mais vous savez le nombre de consuls honoraires qu'il y a, qui sont par exemple des consuls honoraires centrafricains et qui sont de nationalité française. Il y en a plein, hein.
Bon, c'est pas grave.
Bon.
Mais moi, ce que je veux dire, on a constaté, et c'est dessus qu'on a des preuves, qu'il a employé par la Côte d'Ivoire au Qatar. Mais moi, ce que je dénonce, c'est qu'on n'a pas mis Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire pour embaucher ces gens de personnes-là. On a, ces gens de personnes, comme Sarkozy, on n'en a pas besoin. Sarkozy, c'est un criminel. Il a assassiné Kadhafi.
Il a assassiné Kadhafi de ses propres mains, mon cher camarade.
J'ai pas compris.
Non, mais j'aimerais que vous faites attention quand vous formulez vos propos. Monsieur Sarkozy n'a jamais assassiné de ses propres mains Muammar Kadhafi.
Je dis ce que je vois.
Oui. Est-ce que vous avez vu Nicolas Sarkozy tuer de ses propres mains Muammar Kadhafi?
Mais d'accord. Donc on n'a pas tué de ses propres mains. C'est gens ça aussi alors.
Voilà. Merci. Continuez pour finir, camarade.
Non,
c'est tout. Vous avez fini.
Vous avez dit tout à l'heure que Vous condamnez certaines personnes et il y a d'autres que vous condamnez pas.
Mais moi j'ai rien dit. Non, mais vous me faites dire des choses comme j'ai dit que les journalistes étaient là pour dénoncer des donner des faits et non dénoncer. Merci camarade, mais on a bien compris hein, que ça vous plaisait pas voilà avec ces relations d'entre gens entre l'ancien président français et l'actuel président de la Côte d'Ivoire ne vous plaisait pas. On a bien compris mon cher camarade. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous, on écoute, on ferme ce dossier ivoirien avec la démission de Guillaume Soro et Monsieur Traoré. Traoré, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Monsieur Traoré.
C'est Souleymane.
Bienvenue Souleymane, pardon, ça fait longtemps.
Oui, ça fait très longtemps. Mais je vous écoute tous les jours. Comme il faut souvent laisser la place aux autres, voilà, de faire aussi les chemins sur Africa numéro 1, mais je suis toujours connecté, H24, quoi, si j'ai le temps. Ben, Madame Stéphanie, j'ai laissé un message même par email pour pouvoir intervenir, mais bon, comme vous ne m'avez pas rappelé, j'ai dit, bon, je vais rappeler moi-même pour pouvoir intervenir. Le sujet, il est brûlant, il vient à peine de démissionner, Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'aimerais ici, si votre radio... saluer la démarche de l'homme, saluer l'acte historique posé par l'homme. Voyez-vous, Madame Stéphanie, Guillaume Soro était membre du groupement politique appelé le RHDP. C'est RHDP qui était composé du président Bédié, le président Alassane Dramane Ouattara, le président Anaki Kobéna et j'en passe. Ils étaient 4 ou 5, mais où je vous parle aujourd'hui, tous sont partis et les restes seuls dans les bateaux, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara. Au nom et à cause de ses principes, Guillaume Soro n'a pas voulu, n'est-ce pas, céder au chantage ou aux pressions du président Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il a démissionné, de ses fonctions de président. J'aimerais vraiment, en tant que, un partisan de Guillaume Kibafori Soro, parce que la nouvelle génération 2020 veut du sang neuf. On ne peut pas faire, 2020 avec du vieux. Madame Stéphanie, j'aimerais ici rendre hommage à cet homme, Guillaume Soro. Lui dire merci d'avoir vraiment accepté de rendre le tablier, de rendre le tabouret et de penser au peuple ivoirien. Guillaume Soro, nous sommes fiers de toi et merci et le combat ne fait que commencer pour 2020. Je vous remercie Mme Stéphanie et bon week-end à vous. Au revoir.
Merci Souleymane, bon week-end à vous aussi. Disons, Souleymane a raccroché vivement. Je redonne l'information qui à chaque fois prête à confusion. Pour revenir sur le propos de Camara, Nicolas Sarkozy ne représente pas la Côte d'Ivoire au Qatar. Par contre, Nicolas Sarkozy aide Alassane Ouattara dans ses relations avec le Qatar. Et j'imagine que cette aide est bien sûr rémunérée. C'est ce qu'on appelle du lobbying ou des consultations. Voilà, qu'on soit précis et qu'on s'attache aux faits. C'est seulement qu'avec la précision des faits qu'on peut faire des analyses pertinentes. On va parler du Sénégal maintenant, avec notamment Alassane que je remercie d'avoir patienté. Et ensuite, on écoutera Abdel. Alassane, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour vos auditeurs.
Merci de votre patience Alassane, on essaie de faire les sujets dans l'ordre et c'est pas toujours évident. Vous voulez revenir sur la présidentielle je crois au Sénégal ?
Voilà, précisément, Monsieur Ablamad, l'ex-président, et dans sa déclaration, il dit « pendant que je suis à l'étranger » ou « j'étais à l'étranger ». Non, il n'est pas étranger, il est français, il est franco-sénégalais. Avec lui et sa famille, il ne vit pas au Sénégal. Depuis 1974, son parti a été reconnu. C'était rare. Senghor n'a jamais accepté jusqu'à ce jour-là. Et malgré tout ça, c'était un parti de contribution. Donc il contribuait, il appelait Senghor le pacte de Mogadiscio. Donc on a accepté son parti. Jusqu'à 1976, aucun parti en dehors des partis de contribution qui était PDS n'avait pas été fait. Donc ça fait 45 ans. Monsieur, il est opposant ou il est au pouvoir. Jusqu'à présent, pendant 7 ans-là, il est en France. Et avant ça, il était en France. Il rentre au Sénégal pour les élections. Il n'intègre pas ce que disait Jean-Paul Sartre. Le grade confère autorité et non la supériorité. Donc lui, je pouvais comprendre Moussa Idriss Seck ou Madi Kenya et autres, il essaie de négocier comme il a beaucoup de partisans, dit-il. Il essaie de négocier pour battre Macky Sall à la régulière. Parce qu'au Sénégal, les journalistes participent au comptage, même à la publication. Chaque bureau de vote. Donc, monsieur pouvait faire ça.
Mais comme lui, depuis 1974, il est secrétaire national, c'est-à-dire chef de parti, qui sont au pouvoir, qui sont opposants, même en état en France. Moi, j'appelle quand même...
J'ai pas compris, Alassane. Qu'est-ce que vous reprochez d'Abdoulaye Wade qu'il soit en France, on a bien compris. Mais là, qu'est-ce que vous... Vous lui demandez de se retirer de la vie politique, c'est ça?
Non, mais il ne peut pas se retirer. Que la mort, c'est le mal qu'il attend. Mais il ne peut pas retirer. Depuis 1974, moi, je l'ai... En 1978, j'étais avec lui.
Oui. Non, mais bon, alors là, Alassane, aujourd'hui, il y en a d'autres qui vont arriver, je limite le temps à 2-3 minutes. Vous attendez quoi de son arrivée? Est-ce que Maître Wade va empêcher la tenue de l'élection présidentielle comme il l'a annoncé?
Non, il ne peut pas.
Bon, il ne peut pas, c'est très clair.
Ce que j'aimerais qu'il dise aux autres, à ses partisans, de voter Idriss Seck ou Matiki Kenya.
Voilà, c'est très clair. Merci, Alassane. On aura l'occasion de reparler. Le premier tour de l'élection sénégalaise, c'est présidentielle au Sénégal, c'est le 24 février prochain. Alassane qui dit, voilà, j'aurais préféré que Maître Wade, l'ancien président, donne appel ses partisans à voter pour l'un des candidats plutôt que de menacer. D'empêcher la tenue de l'élection. On va demander à Abdel ce qu'il en pense. Bonjour Abdel.
Oui, bonjour. Je crois que c'est déjà un pas vers la sagesse qui demande à voter pour quelqu'un au lieu de...
Oui, il ne l'a pas encore fait. Oui, mais alors, celui-là, Alassane appelait à ça, mais apparemment, la sagesse n'habite pas encore Maître Wade.
Ben, c'est justement ça le problème, parce que je ne comprends pas ce monsieur, ce vieux qui a fait tout son temps. Et il était dernièrement en tête de la liste pour les élections législatives. Après ça, il est parti. Il attend juste la veille des élections pour venir perturber les gens dans le pays.
Est-ce que finalement, Abdoulaye Wade n'est pas en train de tuer le PDS?
Mais il a plus que tué le PDS, parce qu'il ne contribue pas positivement à ce parti-là. Il va s'asseoir en Europe tout le temps. À la veille des élections, il vient pour perturber, pour faire un leadership. Je crois qu'il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent là. On n'a plus besoin de ça. L'Afrique n'a pas besoin des gens qui vont le faire régresser encore.
Est-ce qu'on peut s'étonner aussi, Abdel, que ce soit Abdoulaye Wade lui-même qui fait une vidéo pour défendre son fils et non le jeune Karim Wade?
C'est justement ce qui est étonnant avec nos leaders africains. On a le même cas au Bénin avec Soglo qui, après avoir été président, il veut protéger son fils et c'est le fils qui va rester là-bas. C'est comme si on ne va jamais finir, comme on a vu au Togo, le président, le fils de Yalima est là-bas, au Gabon, le fils de Gombo est là. Donc ça doit être la chose, est devenue la norme.
Il y a des fils plus brillants que d'autres aussi, là, carrément, est aux abonnés absents.
Mais c'est qu'on ne veut même pas qu'on gère la chose publique avec la transparence, parce qu'ils sont toujours corrompus, ils sont dans tout ça, mais ils veulent toujours avoir la même main sur tout. Il faut qu'on puisse arrêter à un moment donné, parce que vivant en France, il connaît la réalité des pays démocratiques, et c'est malheureusement lui qui vient s'illustrer de cette manière-là. Il ne donne pas de référence, il ne donne pas de bonne voie à suivre pour son parti qu'il a créé. C'est vraiment dommage et triste pour cette Afrique-là, malheureusement.
Ouais. Affaire à suivre. Merci Abdel de votre patience et merci d'avoir participé à cette libre antenne. Je vais y arriver, Abdel, qui appelle aussi peut-être à mettre Abdoulaye Wade un peu plus de sagesse. Bonne journée à Montréal. Abdel, on va écouter Ali, qui va nous parler d'un pays dont on parle pas souvent sur cette antenne. Et pourtant, on a eu l'occasion d'interviewer à plusieurs reprises le président. Azali Assoumani, c'est le président de l'Union des Comores. Ali, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour tous les Africains qui nous écoutent.
Bonjour Ali.
Oui, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Vous avez quelques minutes, mais comme on ne parle pas souvent des Comores, la parole est à vous. La Constitution a été modifiée, c'est bien ça?
Elle a été modifiée il y a 4 mois avec le président. Comme quoi, il veut rester encore 10 ans au pouvoir. Et ce qui se passe, qu'aujourd'hui, il y a Lille.
Il y a des élections qui se préparent d'ailleurs.
Ouais, dans deux mois. Dans 2 mois. En fait, il se passe beaucoup de choses aux Comores. Qui va pas? J'aimerais que vous organisez déjà un débat pour les Comores.
Qu'est-ce qui va pas aux Comores pour vous, Ali? Sur le plan économique, c'est difficile déjà?
Ouais, c'est difficile parce que le président il a changé la constitution.
Ouais.
Du coup, il n'y aura plus la tournante Vous savez très bien qu'il y a la tournante dans les trois îles.
C'est-à-dire que le président de l'Union des Comores est issu de l'une des trois îles et ça tourne, c'est chacun son tour.
Voilà, chacun son tour. Mais dans deux mois, ça se peut que ça va s'arrêter. Et voilà, il fait changer la constitution, comme quoi un président il peut rester au pouvoir pendant 10 ans. Et en sachant qu'on sait très bien que lui, il va gagner. Il est resté au pouvoir encore plus de 20 ans encore. Ça veut dire qu'il veut faire 30 ans au pouvoir.
Est-ce qu'il y a eu une réelle opposition pour s'opposer justement à ce changement de constitution? On l'avait évoqué, je m'en souviens un peu, et il me semblait qu'il y avait quand même des gens de l'opposition qui ont soutenu cette modification constitutionnelle.
Non, en fait, l'histoire, il y a 3 jours, il a mis en prison l'opposant, en fait, son premier adversaire. Mm. Il l'a mis en prison.
D'accord.
Ça veut dire il n'y aura plus un opposant. Mm. Voilà, ce qui fait après, il a mis en prison le président qui était en 2015, Sambi. Il a mis encore en prison, mais c'est Mamadou qui était en deuxième tour avec lui en 2016. Il l'a mis en prison. Ça veut dire tous les grands têtes qui peuvent rivaliser.
Et pourtant, Ali, ces élections ne s'organisent pas dans l'opacité, ou en tout cas, elles s'organisent devant tout le monde, puisque le président... Ah bah Ali est parti. Oh, je vais vous donner l'information quand même. Le président Azali Assoumani ainsi qu'une délégation étaient récemment à Paris pour rencontrer des gens de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, justement pour que l'OIF aide le pouvoir actuel à organiser les élections. Et puis selon la COI, c'est la commission de l'océan Indien qui vient de terminer une visite de 4 jours aux Comores dans le cadre de la préparation des élections. Bah, selon la COI, la COI est satisfaite des préparatifs, mais promis, Ali, on aura l'occasion de parler cette actualité comorienne. J'ai pas le temps de prendre d'autres auditeurs. Il y a Jean-Louis Benga, Kimball et Yves qui voulaient revenir sur la RDC. Et on a retrouvé Ali qui a rappelé tout de suite. Ali, bonjour. Rebonjour Ali, ça a coupé.
Oui, bonjour. Non, c'est notre Ali en fait.
Ah, c'est un autre Ali, bah pardon. Alors, je ne vais pas avoir beaucoup de temps, parce qu'il reste 40 secondes, c'était sur les Comores.
Je vais juste parler vite, juste vous expliquer ce qui se passe au pays, aux Comores. Le président Azali Assoumani a modifié la constitution il y a 5 mois.
Oui, on le sait, le monsieur vient de le dire, Ali.
Il a emprisonné tous les politiciens opposants, et les a mis en prison. Il a éventé des cours, il les a mis en prison. Mmh. Il a supprimé la Cour suprême qui puisse contrôler les élections qui arrivent. Il a mis ses gars, donc on peut dire que c'est lui qui va être réélu pour encore 10 ans au pays.
Alerte rouge aux Comores, vous nous dites,
alerte
Ali.
Rouge, voilà, rouge, il faut que vous organisez un vrai débat.
Eh bien, promis, c'est noté. Je vous prends à témoin, mesdames, messieurs. Nous ferons un débat sur les Comores la semaine prochaine, mardi ou mercredi. C'est la fin de cette émission. Émission assez mouvementée, j'ai trouvé. Merci à tous, en tout cas, de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux, hashtag JDA. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du journal des auditeurs. Je vous propose lundi de faire le bilan de la présidence de George Weah au Liberia. Inscrivez-vous en laissant un message sur le répondeur au 01 55 07 58 05 01 55 07 58 05. En attendant de vous retrouver lundi, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie, l'authentique radio africaine. À lundi.